C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'ai fait exprès de ne pas donner la référence du texte avant de le lire, parce que je veux le savoir, une petite devinette comme ça, est-ce que vous savez où se trouve ce texte? Oui. Matthieu chapitre 5. Est-ce que vous savez ce que c'est Matthieu chapitre 5? Le sermon sur la montagne, exactement. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. On est dans une église avec des gens qui sont chrétiens depuis longtemps et puis d'autres qui le sont depuis moins longtemps. Et on est tous ensemble dans notre apprentissage. Mais c'est un texte très important, le sermon sur la montagne. Très important dans l'évangile de Matthieu, puisque c'est le premier discours de Jésus, celui où il donne sa direction, où il donne sa loi à ses disciples. Mais très important aussi, je crois, dans la vie chrétienne. Ce discours, c'est vraiment quelque chose de structurant. Le sermon sur la montagne, donc, Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Si vous l'avez lu, relisez-le. C'est vraiment un texte cardinal de l'Évangile qu'il est bon de lire et relire et garder en tête et méditer. Et j'ai eu le privilège cette semaine de méditer à nouveau ces versets. Et j'aimerais partager avec vous ce que j'en tire. Dans ce texte, il y a quelque chose qui frappe, ce sont deux images. Le sel et la lumière. Mais avant d'aller vers ces images, ne nous hâtons pas. Regardons autour. Et il y a plusieurs choses que j'aimerais que nous remarquions ensemble. La première, c'est Jésus qui dit « Vous êtes ». Vous êtes. Et il utilise le présent de l'indicatif. Vous êtes. Il ne dit pas « soyez, faites des efforts pour être ». Vous êtes. Ça, c'est quelque chose de pas négociable. C'est quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. Vous êtes celle de la terre. Vous êtes celle du monde. Qui c'est ce vous? On l'a dit, on est dans le sermon sur la montagne. Le vous, ce sont les auditeurs de ce sermon. On nous dit au verset 1, Jésus, voyant les foules, monta sur la montagne et il s'assit, et ses disciples vinrent à lui. Et il prit la parole et se mit à les instruire. Ce vous, c'est ceux qui sont là, une foule avec des curieux, et puis au milieu de ces curieux, des disciples, c'est-à-dire des gens qui ont choisi de le suivre. Et c'est à eux qu'il dit, vous êtes sel et lumière. À partir du moment où vous me suivez, voici ce que vous êtes. Et la deuxième chose que j'aimerais remarquer, c'est vous êtes différent. Vous êtes dans le monde, au milieu, sur la terre, au milieu, et en même temps, vous êtes totalement différent. Vous êtes différent par nature. Vous êtes sel de la terre, le sel qu'on met dessus, qu'on rajoute. Vous ne faites pas partie du monde, vous êtes la lumière qui l'éclaire. Nous sommes ensemble avec la terre, avec le monde, ensemble, mais différents, radicalement différents, de nature différente. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Est-ce que vous en avez conscience de cette différence fondamentale? Et la troisième chose que j'aimerais remarquer avant d'aller vers les images, c'est que on peut aussi se rater, rater l'objectif. Parce que ce que dit Jésus ici, le plus important, il me semble, quand on lit le texte, ce n'est pas le sel et la lumière, mais c'est de ne pas perdre sa saveur, de ne pas cacher sa lumière. Jésus, dans ce texte, dit avant tout, voici ce que vous êtes et faites attention de bien l'être, de ne pas le perdre, de ne pas le cacher. Parce que vous êtes là dans un but. Quelqu'un veut saler la terre, quelqu'un veut éclairer le monde. Et c'est vous qui l'a choisi pour cela. Hein, la traduction que j'ai lue, la NBS le met bien en valeur quand plusieurs traductions disent « vous êtes le sel de la terre », la traduction que j'ai lue dit « c'est vous qui êtes le sel, c'est vous qui êtes la lumière ». Ce monde a besoin de sel, il a besoin de lumière et c'est vous qui l'êtes. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre ce chant-là qu'on a chanté « Dieu de cette ville » parce que il est beau de le chanter et on peut le chanter avec un peu de distance. Et du coup, la réponse de Jésus, elle vient nous frapper. Ouais, ok. De grandes choses sont à venir. C'est vous qui êtes sel et lumière. Sel et lumière. Le sel, ça sert à beaucoup de choses. Le sel, on le connaît, c'est ce qui donne du goût. Et l'année dernière, pendant la semaine de prière, en janvier, on avait fait ça le vendredi soir. On était là avec tous ensemble, les différentes générations, avec les enfants. Et puis, on avait préparé des pâtes pour goûter. Et il y avait des pâtes sans sel et des pâtes salées pour voir combien les aliments peuvent être fades quand il manque de sel. Combien le sel vient relever et donner du goût. Mais le sel ne sert pas qu'à ça. Et en particulier, avant d'avoir l'équipement moderne, avant d'avoir des frigos, le sel était quelque chose d'important pour conserver les aliments. Le sel, c'est quelque chose qui vient aider à la conservation, qui vient supprimer la corruption, ralentir ce processus. Et cette propriété de conservation devrait nous parler. Dans ce monde qui est corrompu par le péché, où le péché gagne du terrain, la terre a besoin d'éléments de conservation pour la sauvegarder. Et Dieu envoie ses disciples, les disciples de Jésus, comme sel dans ce monde. Avec l'avertissement. Ne perdez pas votre saveur, ne perdez pas vos propriétés. Restez radicalement différents. La deuxième image, c'est celle de la lumière. La lumière qui permet de voir sans lumière. L'absence de lumière, c'est l'obscurité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. On tâtonne, on peut buter sur le chemin. On a besoin de la lumière pour montrer le chemin. Et la lumière ne doit pas être cachée. Le sel et la lumière, ce sont deux images, et ce n'est pas exactement pareil, ce n'est pas la même chose que dit Jésus. Le sel, c'est quelque chose avec des propriétés particulières, une saveur différente, et l'enjeu, c'est de conserver cette différence, ne pas devenir fade, sans goût, comme tout le monde. Alors que la lumière, son enjeu, c'est de ne pas se cacher, de ne pas se mettre sous le boisseau, c'est-à-dire un récipient, un seau, mais au contraire, mettre en valeur, mettre visible pour que tout le monde la voie. Et il y a une invitation à briller devant les gens et une invitation à la persévérance dans le but qu'ils voient et qu'ils comprennent nos actions. Parce que c'est ce qui est écrit. Que votre lumière brille devant les gens afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une invitation à briller dans le but qu'ils voient et qu'ils comprennent nos actions. Les lecteurs de l'évangile de Jean seront peut-être surpris, parce que dans l'évangile de Jean, il y a ce thème qui vient où Jésus dit « Je suis la lumière ». Alors la lumière, est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est ses disciples? Je pense que les deux ne sont pas en opposition. C'est juste que Jésus est la source de lumière. Et ses disciples, c'est la lumière de Jésus qu'ils transmettent, qu'ils font passer. Un peu comme, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de science, hein, mais de ce que je me souviens, l'énergie solaire est capturée dans les végétaux, et quand on les fait brûler, cette énergie est libérée. Et de la même façon que nous libérions et nous donnions à voir la lumière plus grande, Jésus, dont nous tirons notre source. Rendre un témoignage à Jésus-Christ, dire qu'il change les vies, dire qu'il a changé ma vie, et le montrer par mes actions, le montrer par les belles œuvres. Les deux vont ensemble. Dire, avoir le discours pour expliquer, afin que quand les autres, quand le monde voit dans la pratique ce que je fais, ils sachent que je ne le fais pas parce que c'est moi, mais que je le fais parce que je me revendique de Jésus. Sel et lumière, donc. Sel et lumière au milieu du monde. Je le disais, le texte le dit directement, la lumière n'est pas faite pour être cachée, mais de même, le sel n'est pas fait pour rester dans la salière. Si le sel reste tout ensemble dans le pot de sel, il est complètement inutile. Il doit être répandu, réparti partout. Est-ce que nous avons conscience de cela, de ce que nous sommes disciples, pas seulement quand on se rassemble et qu'on chante les louanges de Dieu tous ensemble, pas seulement quand on écoute sa parole? Mais nous sommes aussi son Église quand nous sommes répartis partout à Clermont-Ferrand et dans les villes où nous habitons. Et nous ne sommes pas seulement des chrétiens envoyés là-bas, nous sommes toujours Église avec notre action commune, notre témoignage commun, le sel réparti. Parce que notre monde a besoin de voir Dieu. Notre monde qui se perd, notre monde qui se corrompt, a besoin de voir Dieu. Et j'aimerais prendre des exemples. J'ai lu un article cette semaine où celui qui écrivait l'article, qui est professeur de théologie, parlait de la même chose et prenait des exemples de là où il était sel et lumière. Je me suis dit, et je me suis prêté à l'exercice, et c'est pas si difficile en fait de prendre conscience du rôle qu'on a là où on est. Et je suis sel et lumière quand je suis
avec cet ami
qui dit qu'il ne croit pas, hein, et qu'il le répète comme un besoin de se démarquer dans un environnement où beaucoup croient. Et qui dit, moi je ne crois pas, je ne sais pas comment on peut croire, mais qui pose des questions, qui a tellement de questions sur le message biblique, sur l'Église. Je suis sel et lumière à côté de lui, là où Dieu m'a placé. Je suis aussi à côté
de mon voisin,
qui au contraire n'est pas intéressé par le message biblique, qui ne pose jamais de questions et qui change de sujet quand son épouse, elle, curieuse, en pose. Mais qui est toujours très sensibles aux relations et qui voient une différence dans les relations que nous vivons à l'Église, une différence et une qualité. Je suis sel et lumière à côté de lui. Je suis aussi sel et lumière à côté de ce membre de ma famille, farouche, méfiant, au début en retrait par rapport au pasteur que je suis et ce que ça représente. Et puis qui un jour m'appelle parce qu'il y a quelque chose qui lui pose souci dans sa vie et qui m'appelle parce que je suis croyant et que même s'il ne croit pas, il veut entendre une autre sagesse. Je suis sel et lumière à côté de lui. Et Daniel Lichty, l'auteur que je citais tout à l'heure, qui prend comme ça aussi des exemples tirés de sa vie, écrit dans son article qui parle d'évangélisation, « L'évangélisation, ce n'est pas faire quelque chose, mais c'est être. Notre monde révolté et curieux a besoin de rencontrer en semaine des chrétiens dispersés qui acceptent d'être image de Dieu, qui révèle sa grâce et sa grandeur. Nous disions autrefois qu'il fallait amener des personnes à Jésus, ce n'est pas faux. Cependant, globalement, l'annonce de l'Évangile ne consiste pas à amener des personnes à Jésus, mais amener Jésus aux personnes. C'est à la fois plus simple et plus exigeant, écrit-il. Plus simple et plus exigeant, plus simple pour ceux qui veulent évangéliser mais qui ne s'en sentent pas capables. Plus exigeant, certainement, parce que ça touche mon être. Je dois être sel, je dois être lumière, je ne dois pas perdre ma saveur, je dois ne pas cacher ma lumière. Mais concrètement, parce que tout ça, c'est bien théorique, sel et lumière, éviter la corruption, briller. Concrètement, comment je le fais dans ma vie? Concrètement, c'est ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Et vous pouvez le relire avec en tête cette déclaration de Jésus qui est dans l'introduction. Vous pouvez relire le Sermon sur la montagne. Mais au début de cet enseignement, Jésus commence par dessiner le portrait de l'homme heureux. Et je ne résiste pas à l'envie de vous le lire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je pense que c'est ça, être sel de la terre. Être heureux non pas selon les critères qu'on nous donne autour de nous, mais heureux parce que nous espérons en Dieu. Heureux parce que nous attendons les bonnes choses. Et lorsqu'elles tardent, au lieu d'en nourrir de la frustration et de l'amertume, nous réjouir parce que nous savons qu'en Dieu, elles viennent. Et je pense que lorsque nous vivons cela à côté des autres, nous ralentissons la corruption du monde. Au milieu, alors que ce monde court vers l'intérêt personnel, placer notre espérance en Dieu, c'est un modèle et un agent de conservation. On peut penser aux grandes figures chrétiennes qui inspirent et qui inspirent aujourd'hui, mais des personnes bien plus ordinaires, qui ne font pas de compromis, interpellent et motivent pour vivre une vie droite et généreuse. Quant à la lumière qui donne à voir nos bonnes œuvres, bien tout le reste du sermon sur la montagne, ce sont des choses très pratiques, où Jésus parle du respect de la loi, pas comme des règles à suivre à la lettre, mais à dépasser. Parce que c'est une inclinaison du cœur, aller plus loin que ce qui est demandé, parce qu'on a compris ce que Dieu souhaite. Dans le domaine de la colère, dans le domaine du désir, dans le domaine du divorce, des serments, de la vengeance. Et aller jusqu'à ce truc inimaginable, l'amour de l'ennemi. Voilà ce que Jésus demande dans le sermon sur la montagne. Il parle aussi de la façon de vivre avec Dieu. Comment donner, comment prier, comment jeûner, sans attirer l'attention, avec sincérité. Il parle aussi de ne pas s'inquiéter, mais de faire confiance à Dieu dans toute chose. Et pour résumer rapidement le sermon sur la montagne, je dirais que Jésus nous apprend à comment vivre nos relations tous azimuts, notre relation avec Dieu, nos relations avec nos frères et nos relations avec les autres, y compris avec nos ennemis. C'est ça la lumière dont le monde a besoin. Plutôt que des beaux discours, plutôt que des gens qui disent « c'est ça qu'il faut faire », des gens qui le montrent par leurs actes. Comment on honore Dieu. Et du coup, tous ceux qui les voient rendent gloire à Dieu. Assurément, c'est exigeant. Mais notre monde en a besoin. Et c'est notre vocation. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Dieu a voulu du sel et de la lumière pour ce monde, contre la corruption du péché, contre l'obscurité. Et c'est nous qui l'a choisi pour cela, nous qui voulons être ses disciples, nous qui voulons le suivre et qui nous réclamons de son enseignement. Et il nous dit, soyez différents, ne vous cachez pas. C'est votre vocation, c'est à ça que votre Père qui est aux cieux vous appelle. Et je pense pouvoir ajouter qu'il dit également, quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à la prière. Seigneur, je confesse devant toi que parfois, emporté par mon programme, emporté par ce que j'ai prévu de faire, j'oublie ma vocation. J'oublie que tu as lancé un appel sur ma vie, un appel clair à être sel et lumière là où tu m'as placé. Et j'aimerais te prier que tu me recentres sur cet appel. J'aimerais te prier, Seigneur, que tu nous recentres sur cet appel, chacun d'entre nous et aussi en Église. Tu nous donnes les uns aux autres, comme nous l'avons vu, en accueillant de nouveaux membres. Tu nous donnes les uns aux autres pour nous unir et nous compléter selon ce que tu as voulu. Aide-nous à le faire non pas pour nos objectifs, mais pour ton grand dessein d'amour pour le monde. Merci Seigneur de prendre soin de nous alors que nous sommes éloignés de toi par le péché. Merci d'être venu nous chercher. Merci pour ton amour, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.